Chapitre 2. Tout le monde s'accorde à dire que ce soir-là, ils étaient quatre à table. C'est un fait acquis à l'histoire. En descendant de voiture, M. Drummle, qui était en proie à une véritable fringale, se précipita dans la cuisine, donna l'ordre qu'on lui servît sans retard à dîner. La maîtresse du logis, qui l'avait pris en déplaisance, s'amusa à le contrarier. Et elle lui déclara qu'il n'y avait point de cabinet particulier dans sa maison, que les retardataires qui n'avaient pas dîné à table d'hôtes mangeraient tous ensemble au même râtelier, et qu'elle attendrait pour servir que M. Taconnet, le petit Lestocq, fût arrivé. L'un était son cousin, remué de Germain, et elle avait pour lui toute la considération qu'il méritait. L'autre était son favori. Elle l'avait tout de suite distingué parmi les nombreux rapins qui prenaient pension chez elle, et qu'en considération de leur vareuse, elle appelait ses bêtes à laine. Elle le choyait, elle était fière d'héberger sous son toit un garçon de grand avenir, un phénix dont tout le monde parlait. Elle eut volontiers fait mettre sur son enseigne cette inscription « Ici demeure le petit Lestocq ». Elle signifia donc à M. Drummle que personne ne déplierait sa serviette avant que le petit Lestocq ne fût là. Il protesta, s'emporta, et lui répondit que, s'il n'était pas content, il eut à chercher un gîte ailleurs. Elle était brusque, il était colère. Bon, on eut fini par se prendre aux cheveux, si le prince de Malacéra ne fut intervenu. Il avait l'aménité, l'humeur facile des grèves renseigneurs, et avec sa grâce enjouée, il concilia le différend, calma les esprits, amadoua M. Drummle. Il lui dit en riant, « Mon cher monsieur, soyez philosophe comme moi. Colle les choses, elles ne font pas ce que je veux, moi, je tâche de faire ce qu'elles veulent. » Sur ces entrefaites, M. Taconnet, le petit Lestocq arrivèrent et on dîna. Pour Mlle Drummle, c'était de repos qu'elle avait surtout besoin. Elle s'était empressée de se mettre au lit. Pendant le premier service, personne ne souffla mot. On n'entendait que le bruit des couteaux, des fourchettes et des mâchoires. Par intervalle, M. Taconnet examinait du coin de l'œil le prince de Malacéra. Le prince observait à la dérobée le petit Lestocq qui contemplait M. Drummle, lequel ne contemplait que son assiette. Cependant, lorsqu'il eut englouti la moitié d'une fricassée de poulet, lorsqu'il eut assouvi les fureurs de son estomac et qu'il sentit circuler dans toutes ses veines la douce chaleur d'un excellent vin de Bordeaux, sa mauvaise humeur se dissipa comme par enchantement, sa verve se réveilla, et il attendit impatiemment qu'on lui fournît une occasion de discourir, car il aimait à parler en mangeant et à joindre au plaisir de la bonne chère celui d'étonner son prochain. Ce fut M. Taconnet qui lui procura l'occasion qu'il cherchait, en rapportant et approuvant les termes d'un jugement qui venait d'être rendu contre un braconnier surpris en flagrant délit dans la forêt. Les narines de M. Drummle se dilatèrent. Il gonfla ses joues, posa ses deux coudes sur la table et s'écria « Voilà pourtant les beautés de notre civilisation !»« Mais que voulez-vous dire ?» lui demanda M. Taconnet en le regardant de travers. Ben, « Je m'explique, » répondit-il. Et j'affirme que notre prétendue civilisation me fait pitié. Nous sommes encore dans un âge de barbarie où l'État punit les hommes parce qu'il ne sait pas les élever. Alors vous êtes donc d'avis qu'il ne faut punir personne? Je suis d'avis et je soutiendrai jusqu'à mon dernier soupir, qui se fait, oh, dans la triste société où nous vivons, une immense déperdition de forces utiles. Que les prisons sont pleines de gens d'esprit dont on n'a pas su utiliser le mérite. Écoutez-moi bien. Il y a 10 à parier contre un, que le braconnier dont vous parlez est un homme très intelligent, qui braconne faute de pouvoir faire autre chose. Et à ce compte, alors les faux monnayeurs, Connaissez-vous leurs talents? Aussi vrai que j'existe, le législateur de l'avenir saura faire servir au bien commun tous les talents. » L'ex-commissaire, fort agacé, s'écria « Dieu bénisse les voleurs! Le législateur de l'avenir les emploiera à garder nos poches. » « Monsieur, répliqua-t-il avec un sourire sardonique, sauriez-vous me dire ce que c'est qu'un voleur ?»« Mais morbleu, un voleur !»« Oh, monsieur, ne jurez pas !» dit tranquillement le petit Lestoc, qui était tout attention, sans en avoir l'air. « Oh non, ne jurez pas. Ma tante Dorothée, qui m'a élevé, m'a appris que cela portait toujours malheur. » « Vous avez eu tort d'interrompre monsieur, » reprit monsieur de Rommel, « car il allait me dire qu'un voleur est celui qui s'approprie le bien d'autrui. Je l'attendais là, et j'aurais eu l'avantage de lui riposter que l'État est un voleur, puisqu'il exproprie quelquefois les gens pour cause d'utilité publique. Je n'ai jamais eu de goût pour les sophismes, mais pour les sophistes, » repartit monsieur Daconnet, à qui les ricanements du sociologue portaient sur les nerfs. Le petit Lestoc l'interrompit de nouveau en lui disant de son ton froid et posé « Ah, de grâce, répondez, mais ne vous fâchez pas. Vous voyez que je ne me fâche pas, et pourtant les thèses de notre honorable commensal, je voudrais bien savoir son nom. Oserais-je le lui demander ? Osez, jeune homme, osez. Je m'appelle monsieur Drommel. » Et il ajouta modestement « C'est un nom qui jouit en Allemagne d'une certaine notoriété. Ben, je doute qu'il soit arrivé jusqu'à Barbizon. » Lestoc s'inclina avec respect. « Ah, et quoi, monsieur, vous seriez... Oh, j'aurais dû le deviner. Mais vraiment, vous nous faites tort. Pour qui nous prenez-vous? Pouvez-vous penser que vous soyons assez ignares de toute bonne discipline pour n'avoir jamais entendu parler du grand philosophe, du profond penseur, de l'illustre publiciste qui a fondé une feuille célèbre, La Lumière, à laquelle je me suis toujours promis de m'abonner. » Monsieur de Rommel conçut aussitôt la meilleure opinion de ce jeune homme bien informé, et le caressa de sa prunelle. Il ne se doutait pas que sa science était toute fraîche, et qu'il l'avait acquise dans un carrefour de la forêt. Cela n'empêche pas, poursuivit Lestoc, que, malgré l'autorité de votre grand nom, vos thèses ne me paraissent hérétiques, malsonnances, condamnables au premier chef. Oh non, je ne me fâche pas, comme monsieur Taconnet, je ne me fâche jamais. Mais votre théorie sur les braconniers me scandalise diablement. Excusez-moi. Je risque cet adverbe, je le retire. Ma tante Dorothée ne l'aimait pas. Vraiment, je vous scandalise, mon jeune ami, répondit d'un ton d'indulgence M. de Rommel, car il aimait les gens qui se scandalisaient sans se fâcher. C'étaient ses auditeurs préférés. Mais oui, que voulez-vous, c'est la faute de mon éducation. Je suis né dans la Brie, à Périgny, au milieu du village. Enfin, du Charron, dans la maison du Grand Poirier. Connaissez-vous Périgny? Connaissez-vous le Charron? Connaissez-vous le Grand Poirier? Non. Et vous n'avez pas connu non plus ma tante Dorothée, qui m'a élevé, comme vous savez. C'était une demoiselle bien respectable, qui avait des principes et trois grands poils sous le menton. Elle pesait 200 livres, tout compris, les trois poils et les principes. « 250 !» murmura M. Taconnet. « Ah, 200, monsieur, » reprit-il d'un air pincé. « Et quand je dis 200, c'est 200. Or, ma tante Dorothée, qui avait l'esprit bizarre, n'aimait pas les voleurs. Elle n'aurait jamais souffert qu'on en mît dans le gouvernement. Quand il y en avait, elle admettait bien qu'on les y laissât. Mais qu'on les y mit tout exprès, ah non, non, cela ne pouvait pas lui convenir. Ajouterai-je qu'elle m'a inculqué dès mon bas âge le respect du bien d'autrui. Mais je croyais tout ce qu'elle me disait, et je le crois encore. Je ne doute pas un instant, répondit M. de Rumel, que Mlle de Dorothée ne fût une personne infiniment recommandable. Mais mon cher enfant, elle n'était pas forte en dialectique. Autrement, elle aurait su que la propriété n'est pas un droit primordial, que la propriété est une invention humaine et qu'il nous est permis de la réformer en accommodant aux lois naturelles. Ici, le prince de Malacera, qui n'avait rien dit jusqu'alors, poussa une exclamation douloureuse. « Grand Dieu, fit-il, vous me faites frémir. La propriété, mon cher ami, elle est mon idole, et vous voulez la détruire. Vous êtes un puissant logicien, le plus puissant qu'il y ait dans tout l'univers. Je m'en suis déjà aperçu dans la calèche, mais il est écrit dans la Divine Comédie que le diable aussi, il est logicien. Je vous demande pardon, mon cher ami, de vous comparer au diable, mais je frémis, oh oui, oui je frémis. » Monsieur de Rumel se sentit fort flatté que le prince lui eût appelé deux fois son ami par devant témoin. Il en rougit de plaisir. Le regardant avec les yeux tendres d'une colombe qui recoule, « Oh, mon prince, que votre grâce me pardonne !» lui dit-il. « Je ne supprime pas la propriété, je la perfectionne. De quoi s'agit-il ? Le point de la question est que la terre produise tout ce qu'elle peut produire et que la propriété devienne accessible à tout le monde. Prenez bien ma pensée, suivez mon raisonnement. Je suis un paresseux qui a hérité de son père un champ dont il ne tire qu'un méchant parti. Appelez-le X si vous daignez y consentir. Z est un homme de mérite qui n'a point fait l'héritage et qui ne sait à quoi appuyer son talent. Mais Z estime que s'il possédait le champ de X, il en doublerait le rendement. Et il se fait fort de payer à l'État un impôt double. Alors n'est-il pas de l'intérêt de l'État, de la société, de tout le monde, que le champ de X soit donné à Z ? Et quand l'expropriation pour cause d'utilité publique sera appliquée dans toute sa rigueur, la terre rapportera 10 fois plus, et chacun, pouvant devenir propriétaire, il n'y aura plus de voleurs. Ben, « Excepté X !» cria M. Taconnet de plus en plus agacé. « Bon, nous lui trouverons quelque emploi, » répondit-il dédaigneusement. « Et d'ailleurs, je dois convenir que X m'intéresse fort peu. Je vous ai dit que c'était un paresseux. » Malheur à qui n'est pas taillé pour le grand combat de la vie. Il n'y a pas de principe plus sacré que le droit du plus fort, car dans ce monde, il n'y a évidemment que la force et la sélection, la loi de la société comme de la nature. » À ces mots, il attacha un regard d'admiration complaisante sur ses vigoureux poignets, sur ses longs bras puissamment emmanchés, qui lui paraissaient de force à déraciner un chêne. En ce moment, on servit un plat d'alouette rôtie qui était le gibier favori du petit Lestoc, et l'hôtesse le savait. Monsieur Dormel en attira 3 ou 4 sur son assiette. Il les avala en 2 bouchées, faisant craquer et crier les os sous ses fortes dents. Il lui semblait que ces alouettes croyaient comme lui à la grande loi de la sélection, qu'elle s'applaudissait d'avoir été prédestinée à réjouir l'estomac d'un grand homme et à s'incorporer dans sa glorieuse substance. Le prince de Malacera, qui le regardait faire, frémit de nouveau et reprenant la parole. « Oh, vous me faites de la peine, mon cher ami, beaucoup de la peine. Mais pensez donc à Malacera. C'est une si belle terre que Malacera. On y trouve tout ce qu'on veut, des vignes, des oliviers, des champs, des épis jaunes comme de l'or, des oranges grosses comme des citrouilles. Ah, il m'est bien cher, Malacera. Et puis j'ai un palais à Palerme, j'en ai même 2. Ils ne sont pas si chers que Malacera. Je dois vous l'avouer, mon ami, comme je l'avouerai au meilleur de mes amis. Si Zed, il viendrait me demander Malacera. Et si je le tiendrais au bout de ma carabine, oh, sûrement il arriverait quelque accident. Mais ne parlons plus de Malacera. Songez à la morale, mon cher ami. La morale est le tout de l'homme. Le respect de la propriété, il est le plus sacré des sentiments. La distinction du tien et du mien, elle est l'arche sainte, elle est le palladium, elle est la sauvegarde tutélaire des honnêtes gens comme nous, elle est le fondement de tout l'univers, elle est... Il avait envie d'en dire plus long, mais M. Taconnet avait les yeux braqués sur lui. Quand on a été pendant 25 ans commissaire de police, il en reste quelque chose. Et on a dans l'œil un je ne sais quoi qui peut paraître désobligeant. Le prince de Malacera avait à cet égard une délicatesse d'épiderme qui tenait de la sensitive et qui s'explique par l'habitude du grand monde. Monsieur de Rommel attribua l'émotion du prince aux inquiétudes qu'il ressentait pour Malacera. Il s'empressa de lui donner sa parole d'honneur que le législateur de l'avenir n'aurait garde de le déposséder de ses terres, de ses épis jaunes comme l'or, de ses éranges grosses comme des citrouilles. « Je me pique d'être physionomiste, lui dit-il. Oh, j'avais tout de suite deviné que vous étiez un grand agronome. Fiez-vous à moi, mon prince, on ne touchera pas à Malacera. La terre doit appartenir aux plus dignes. » Encore un coup, je n'abolis pas la propriété, je la fais circuler. Circule-t-elle déjà en Allemagne ? Demanda le petit Lestock. M. Dormel poussa un profond soupir. L'Allemagne, dit-il, est encore gouvernée par les vieux préjugés. Mais elle commence à en revenir, et c'est elle qui donnera le signal de la grande émancipation. Le grand Courbet, répondit Lestock, me fit jadis ainsi honneur de grimper à mon atelier pour y voir mon premier tableau, qui, soit dit entre nous, était un assez vilain barbouillage. « Jeune homme, me dit-il en posant sur ma tête cette puissante main qui plus tard déboulonna la colonne, « votre tableau me plaît, c'est beau comme le Titien. » Oh, je ne savais pas où me mettre, je fis le plongeon, je fus tenté de lui crier « homme de génie vient sur mon cœur. » Mais par malheur, il reprit, « Oh, mais Titien, c'est pas encore cela. » « Eh bien non, l'Allemagne n'est pas encore cela, » repartit M. de Rommel, « mais elle y viendra. Nous en sommes au crépuscule, et demain le soleil se lèvera. Les Allemands se distinguent entre tous les peuples par le génie du réalisme et par le sentiment de la synthèse. » Et il ajouta, en dévorant une cinquième alouette, « Ne vous y trompez pas, c'est la synthèse germanique qui a vaincu à Sedan. » M. Taconnet portait son verre à sa bouche. Il le laissa retomber sur la table si violemment qu'il faillit le briser, et ses yeux bruns jetèrent un éclair. Il se calma aussitôt et se contenta de murmurer « « Patience, répondit Panurge. À propos, mais pendant que nous y sommes, qu'allons-nous faire de la famille ?» demanda encore Lestock. « Je la détruis pas, je la perfectionne, en faisant élever et nourrir tous les enfants par l'État. Mais le mariage, l'abolissons-nous ? Ben, le mariage, mon cher enfant, est le plus absurde de tous les préjugés, le plus grand attentat à la liberté de l'homme et de la femme. Je le remplace par l'amour libre. Oui, c'est entendu, comme la propriété, nous faisons circuler la femme. Sera-t-il permis d'en avoir plusieurs ? Demanda à son tour M. Taconnet. Non, mais vous prenez toujours ma pensée de travers, lui dit aigrement M. Dromel. L'amour est essentiellement monogame, et la seule polygamie qui soit conforme à la nature est la polygamie successive. L'homme n'a pas le droit de disposer pour l'éternité de sa personne qui est sacrée et de sa volonté qui est changeante. La loi ne reconnaît plus les vœux perpétuels des moines. Le législateur de l'avenir ne reconnaîtra pas les vœux du mariage. Et inscrira en tête de sa constitution le grand principe des affinités électives. Tout est chimie dans l'homme. Parfait, dit M. Taconnet. Z a de l'affinité pour la femme de X, comme pour son chant, alors nous lui donnons le chant et la femme. Mais qui vous dit, répliqua M. de Lamballe, que la femme de Z n'est pas de l'affinité pour X? Mais voilà un échange qui fera d'un coup quatre heureux. Échange-t-on quelquefois les femmes en Allemagne? Dit le petit Lestock. Oui, cela s'est vu, et tout le monde s'en est très bien trouvé. Omnis clocha clochabilis, s'écria M. Taconnet. Et c'est une belle chose que d'être clair jusqu'aux dents en matière de bréviaire. Ben, je m'en tiendrai toujours à celui de ma tante, Dorothée, dit Lestock. C'était un jour sous le grand poirier. Oh, je me souviens que ce jour-là, elle avait un caraco couleur chocolat et une cornette à longue barbe. Henri, me dit-elle, ne le fais jamais aux autres si tu veux qu'on ne te le fasse jamais. Et pour qu'il m'en souvînt, elle m'appliqua un grand soufflet sur la joue droite. C'était sa façon de graver fortement les choses dans ma mémoire. Et alors il en est résulté que je ne l'ai jamais fait aux autres. Et quoi, un joli garçon, s'écria M. de Rommel, serait-il vrai? C'est la pure vérité. Et voilà un sacrifice qu'il me coûte guère. Je n'ai jamais été amoureux, moi qui vous parle. Il faut vous dire que j'appartiens à l'école du plein air, et l'école du plein air a pour principe que le milieu est tout, et que la femme n'est qu'une tâche. Entrez dans ma pensée. Je fais mon paysage, n'est-ce pas, en commençant par le ciel, car il faut toujours commencer par le ciel. Mon tableau fini, je le trouve admirable, mais je découvre qu'il y manque une tâche ou deux tâches, l'une rose, l'autre bleue ou jaune paille. La couleur ne fait rien à l'affaire. Je fouille dans mes souvenirs, j'y trouve une femme jaune paille, ou bien je la vois passer dans la rue, et je la prie de monter en lui disant « Madame, vous êtes nécessaire à mon bonheur, vous êtes la tâche que je cherche. » Sans calembour, dit M. Tarconnet. Bon, ben, je suis si bête que je ne les comprends pas. Et l'amour non plus, je n'ai jamais compris. L'amour, c'est le vieux jeu. C'est bon pour les peintres d'intérieur. Mais qu'en pourrions-nous bien faire, nous autres, de l'école du plein air? Et que diable, est-on amoureux d'une tâche? M. Dromel le regardait avec une admiration mêlée de stupeur. Il serait donc vrai, joli garçon, que jamais... Jamais, interrompit-il. Oh, d'ailleurs, je suis trop occupé. Sauf les dimanches et jours de fête, dit M. Taconnet. Mais jamais, vous dis-je, au grand jamais, et je ne permets à personne d'en douter. Il se peut, oh, que dans 30 ans d'ici, sur mes vieux jours, ce sera la preuve que je serai ramolli. Mais il est vraiment prodigieux, dit M. Dromel. Au prince de Malacerne. Renversant, répondit le prince. Pour ma part, le 10e commandement, il m'a toujours été sacré. Je n'ai jamais convoité ni la maison de mon prochain, ni son serviteur, ni son bœuf, ni son âne. Oh, l'homme, il n'est jamais parfait. La seule partie du bien de mon prochain qui me soit arrivée quelquefois de convoiter, ben vous le dirai-je, c'est sa femme. Et si vous me permettez de vous expliquer plus copieusement ma pensée. Il n'expliqua rien, attendu que M. Taconnet le regardait et que décidément le regard de M. Taconnet le gênait. Il est une question, reprit Lestock, que je grille d'envie d'adresser à notre éloquent convive, M. Drummel. Bon, non, c'est vous, hein, toute telle qui vous plaira, mon life-note. Dit Forfant de l'abri, car vous m'adressez. N'avez-vous jamais été marié? Jeune homme, reprit gravement M. Dromel, quand vous connaîtrez mieux la vie, vous saurez que les philosophes sont obligés quelquefois de s'accommoder aux mœurs de leur siècle. Non, non, je ne vous en veux pas, mais je vous prie, Avez-vous enseigné, Madame Drummel, la théorie des affinités électives et de la circulation ? Mon jeune ami, répondit-il plus gravement encore, apprenez que dans certains pays, les femmes n'ont pas d'autres règles de conduite que les entraînements de leur sens ou les caprices de leur imagination, ce qui serait peut-être dangereux de leur laisser la bride sur le cou et d'en se remettre à leur bonne foi. Mais si vous connaissiez les Allemandes, vous sauriez qu'elles n'ont pas besoin de préjugés pour sauvegarder leur vertu. Ce qui les distingue entre toutes les femmes, c'est l'intimité du sens moral, la profondeur dans les attachements, le sérieux de la passion. Quand une Allemande a donné son cœur, elle ne le reprend plus. Son amour est un culte, une religion, et jamais elle ne renie son Dieu. Vous ne contestez pas, je pense, la supériorité intellectuelle et morale que tous les gens de bonne foi accordent à la race germanique. Mon Dieu, il est possible que les préjugés soient nécessaires aux races inférieures. Les mandingues ne seraient-ce passés de leur gris-gris, ni les peaux de leur manitou. J'en suis fâché pour les latins. Ils sont destinés à faire place avant peu aux nations jeunes, qui ont de la sève et les secrets de l'avenir. Quand l'Allemagne aura transformé le monde et posé de sa forte main les assises de la société nouvelle, malheur aux peuples qui seront incapables d'en adopter les principes, ils disparaîtront comme les peaux rouges à l'approche des blancs. » L'ex-commissaire de police s'écria pour la troisième fois « Patience !» répondait Panurge. « De qui était ce Panurge ?» demande M. Drummel impatienté. Au rebours de l'ex-commissaire, il avait tout lu, sauf Rabelais. « Bien, Panurge, répartit M. Taconnet, était un homme de bien, à qui l'on ne fit jamais de chagrin, sans repentance. Et il en prit mal à Dindonneau d'avoir eu maille à partir avec lui, un jour qu'ayant ses lunettes, il entendait plus clairement de l'oreille gauche. « Je me suis laissé dire, fit le petit Lestoc, que les Welches, ayant perdu le secret de faire des enfants, dans un siècle d'ici, il n'y en aura plus que trois sur la surface de la terre. L'un sera coiffeur, le second cuisinier, et le troisième fera des calembours, comme M. Taconnet. Mais on assure que quand ils seront morts et qu'il n'y aura plus au monde que des Allemands, l'Académie de Berlin, partant du principe que plus on est de fous, plus on s'amuse, proposera un prix de 100 000 francs pour encourager les inventeurs à fabriquer de la graine de Welche. Vous faites tort aux fous allemands, lui dit M. Taconnet en se levant de table. Ils se suffisent parfaitement, et c'est assez de leur petite drôlerie pour tenir en gaieté la terre, la lune et les étoiles. Puis, s'approchant de M. Drummel, l'un des derniers peaux rouges, lui cria-t-il, souhaite à la synthèse germanique une douce nuit et d'heureux songes. Cela dit, il s'inclina humblement et prit la porte. « Cet homme est fort désagréable, » grommela M. Drummel. « Il a l'humeur rêche et déplaisante. Je me connais en physionomie. La sienne m'a rebuté tout de suite. C'est une de ces figures qu'on n'aime pas rencontrer au coin d'un bois. Oh, « Je connais un honnête homme qui était de votre avis, » dit Lestoc, « et qui en serait encore... si on avait guillotiné l'autre jour. Qu'est-ce à dire ? Demanda le prince de Malacera. Ben, je veux dire, mon prince, que certaines gens aiment mieux rencontrer dans les bois une jolie femme qu'un commissaire de police. Ah, monsieur Taconnet, il est de la police ! S'écria le prince. Je m'en étais douté. La police, elle a quelque chose dans l'œil, et elle... le manque de forme, surtout en France. » Visiblement soulagé par le départ de cet homme sans fortune, il sonna et se fit donner une bouteille de vin d'ail dont il entendait régaler son illustre ami. On apporta 3 coupes, mais le petit Lestoc déclara que l'école du plein air ne buvait jamais de vin d'ail. Et il sortit, laissant le prince de Malacéra fêter tête à tête avec M. Drummle la bonne fortune qui lui avait fait rencontrer sur une grande route un des plus célèbres penseurs de notre temps, dont il admirait passionnément la logique, tout en désapprouvant énergiquement ses principes. L'entretien devint plus intime, le vin d'Aï dispose les cœurs à l'expansion. Le prince de Malacéra adressa à M. Drummle une foule de questions marquées au point du plus sympathique intérêt. Il fut charmé d'apprendre que notre sociologue se proposait de faire un séjour en Italie. Il l'engagea à pousser jusqu'en Sicile. Il mit à son entière disposition l'un de ses deux palais, le pressa de venir passer un mois à Malacéra, où il comptait retourner avant peu et dont il lui détailla toutes les beautés, depuis le cèdre jusqu'à l'hysope. M. Drummle accepta cette proposition avec enchantement. Plus il pénétrait dans la précieuse intimité du prince de Malacéra, plus il sentait que sa vraie vocation était de vivre avec les princes. Cet entretien savoureux fut interrompu plus d'une fois par l'indiscrète Madame Picot. Cette brave femme a tant d'excellentes qualités qu'on peut, sans lui faire tort, signaler ses défauts. Elle n'éprouve qu'un respect modéré pour les grands de la terre et pour les hommes célèbres, même pour ceux qui boivent du vin d'Aï. On l'accuse aussi de traiter cavalièrement ceux de ses pensionnaires dont la physionomie ne lui revient pas, en quoi elle manque au plus sacré devoir de sa profession, qui est de ne jamais faire exception des personnes. « Dis-moi ce que tu consommes, et je te dirai qui tu es. » Tel est l'adage du parfait aubergiste. À plusieurs reprises, Madame Picot pénétra brusquement dans la salle à manger, espérant la trouver vide, et elle referma la porte à grand bruit, avec un geste d'impatience. On ne pouvait dire plus clairement « Mais allez-vous-en !» M. Drummle ne put se contenir de confesser au prince que la figure de Madame Picot lui paraissait aussi rébarbative que celle de M. Daconnet. Et il s'informa d'un ton de mystère et d'inquiétude si les auberges de Barbizon passaient pour des maisons honnêtes. Le prince en inféra que M. Drummle avait emporté dans son bagage toute une collection de rubis-balais. Quand il sut qu'il s'agissait de 5 ou 6 méchants 1 000 francs en billets en espèces, il ne put réprimer un léger haussement d'épaule. Qu'est-ce que 6 000 francs pour un grand seigneur qui possède Malacéra? Il ne laissa pas de représenter à M. Drummle qu'il eût été plus simple de se munir de lettres de crédit, et il exhorta vivement de jamais se séparer de sa sacoche. Cette maison, lui dit-il, est la plus honnête du monde, mais l'homme, mon cher ami, il n'est jamais sûr que de ce qu'il tient. Pendant ce temps, l'ex-commissaire de police, qui s'était retiré dans sa chambre, croyait apercevoir dans les fumées de sa pipe une très jolie femme, aux yeux de couleur indécise, un innocent jouvenceau à la blonde moustache, une lourde sacoche pendue au cou d'un butor, la noble et pâle figure d'un prince sicilien qui s'écriait « Le respect de la propriété, il est le fondement de tout l'univers !» M. Taconnet bâtissait au-dessus un imbroglio, un roman à 4 personnages où les affinités électives jouaient un grand rôle. Les cœurs, les espèces, tout circulait. Puis il se mit à songer aux races inférieures et aux nations qui ont les secrets de l'avenir, à la synthèse germanique, à Sedan, au Peau-Rouge. Et il finit par s'endormir en murmurant « Patience !» répondit Panurge. M. Drummle aurait mieux fait peut-être de suivre sa première idée, qui était de partir dès le lendemain 1er octobre pour Lyon. Mais quoi, il n'en fit rien, c'était écrit aux tablettes de Jupiter. On a prétendu que la cause de tout le mal avait été Madame Drummle. Qu'en s'éveillant, elle s'était plainte de son pied qui avait enflé pendant la nuit, qu'elle s'était déclarée incapable de se remettre en route. Ceux qui ont adopté cette version méconnaissent le caractère angélique de cette charmante femme. En la vérité, lorsque son mari se présenta dans sa chambre, elle lui insinua doucement qu'elle se ressentait les fatigues de la veille et qu'un jour de repos lui ferait grand bien. Mais elle ajouta aussitôt que, s'il l'avait pour agréable, elle était prête à partir, qu'elle se faisait une joie de déférer à tous ses désirs, qu'il la connaissait trop pour en douter. Heureusement, M. Drummond avait résolu d'employer cette journée à visiter le palais et le parc de Fontainebleau en compagnie de son cher prince qui lui en avait fait la proposition. Il répondit que la santé de sa chatte lui était plus précieuse que tout et que, quoi qu'il lui en coûtât, il retarderait de 24 heures son départ à la seule fin de lui faire plaisir. Elle fit semblant de le croire, le remercia gentiment, le récompensa par un adorable sourire. Avoir l'air de croire est un art qu'elle possédait, et un art très utile, qui épargne aux familles beaucoup de contestations épineuses, de chipotages et de picoteries. On a prétendu aussi, et même affirmé, qu'un peu plus tard, M. Drummond l'avait rencontré sur l'escalier le petit Lestock. Celui-ci lui proposa de but en blanc de faire le portrait de sa femme. Il n'en est rien, et voilà comment on écrit l'histoire. Les choses se passèrent tout autrement, comme vous le pensez bien. Voici le fait. M. Drummond, qui avait gardé un admirable souvenir du jeune peintre, de l'agrément de son commerce, de la facilité de son humeur, de la naïveté de ses propos, s'informa de son nom. Lorsqu'il apprit que le neveu de Mademoiselle Dorothée était l'auteur du tableau-teint coté 2000 francs, qu'il était en passe de devenir célèbre et qu'un jour ses peintures se vendraient à un prix fou, l'estime qu'il faisait de lui s'accrut considérablement. La pensée lui vint d'obtenir de ce bon jeune homme, à titre de souvenir et sans bourse déliée, bien entendu, une aquarelle, une pochade, quelques croquis, et de le rapporter à Görlitz comme un échantillon de l'école du plein air, à laquelle il se promettait de consacrer quelques jours l'une de ses plus savantes élucubrations. M. Drummond a toujours eu le génie du troc. Il donne l'œuf pour avoir le bœuf, un abonnement à la lumière contre un tableau ou un livre de prix. Souvent même, il ne donne rien du tout. Il ne rencontre guère de peintres, d'artistes, de collectionneurs d'objets rares sans leur soutirer quelque chose. Ils sont tous tenus de lui payer leur tribut, qu'il empoche gaillardement comme une preuve sensible et palpable du vif intérêt qu'il leur porte. Les indiscrets sont les heureux de ce monde. Après y avoir mûrement réfléchi, M. Brummel trouva bon de charger sa femme de cette petite négociation. Il alla sur le champ la rejoindre dans un kiosque à claire-voie qui terminait l'une des allées du jardin de l'auberge. Elle s'y était acheminée en boitant très bas et y prenait le frais, enveloppé dans son mantelet, la jambe allongée sur un coussin. Il lui annonça que, pour la sauver de l'ennui en son absence, il voulait lui présenter un jeune homme très singulier, très original, qui la divertirait par ses naïves saillies. « Te souviens-tu, Ada, lui dit-il, d'une jolie petite toile signée Henri Lestock ?» Mais il eut beaucoup de peine à s'en souvenir. « Que les femmes sont oublieuses, reprit-il. J'ai dîné hier avec lui. « Comment l'appelles-tu » demanda-t-elle. Il se fit un cornet de ses deux mains et cria dans l'oreille de sa femme « Henri Lestock, t'en souviendras-tu, tête à l'évent ?»« Ah, je crois le voir d'ici, répondit-elle. « Ah oui, un gros garçon chevelu, hérissé comme un porc-épic. Oh, tu peux te vanter de rencontrer juste dans tes conjectures. Mais c'est un petit blondin qui encore relève le lait de sa nourrice, ce qui n'empêche pas d'être fort intelligent. Il me connaissait, ma chère. Je voudrais pas en jurer qu'il m'ait lu, mais il avait entendu parler de moi. Oh, le beau mérite, fit-elle. C'est le plus élémentaire de ses devoirs. Enfin, veux-tu que je te l'amène? Oh, à quoi bon, qu'en ferais-je? J'ai mon projet, répondit-il. Elle le regarda en se disant, mais il est vraiment prodigieux. Oui, reprit-il, j'ai mon idée. Ce galopin a du talent, et j'ai décidé que j'aurai de sa peinture sans qu'il m'en coûtât rien. Et c'est sur moi que tu comptes pour cela? Ben, dans le cours de la conversation, tu demanderas à visiter ses portefeuilles. Il te refusera pas un petit souvenir. On refuse rien à une jolie femme qui sait s'y prendre. Puis il t'amusera. Croirais-tu, ma chatte, qu'il a fait vœu? Oh, ils sont tous comme ça dans l'école du plein air. Oui, croirais-tu que jamais, au grand jamais, c'est lui-même qui le dit, ma parole d'honneur. Ces Français sont bien étonnants. Quand ils ne sont pas des Lovelace, ils sont candides au-delà de tout ce qu'on peut se figurer. Celui-ci a été élevé par une vieille tante, vertu farouche, qui avait de la barbe au menton. Il est vraiment incomparable. D'amour, il est un peu sauvage, tâche de l'apprivoiser. Voyons, puis-je te l'amener? Consens-tu? Après s'être fait longtemps prier, Madame Drommel finit par consentir. En fin de compte, elle était toujours consentante. Monsieur Drommel se mit à la recherche du petit Lestocq. Il le trouva, qui sortait de sa chambre, fredonnant une vocalise, tout frais, tout pimpant, portant beau, le chapeau sur l'oreille, le nez au vent, les mains dans les poches de sa vareuse, un bouquet de myosotis à sa boutonnière, décoration qui était peut-être de circonstance. Chaque matin, il se réveillait plus jeune d'un jour que la veille. Chaque matin, on lisait sur son visage la hâte fiévreuse d'un départ. Il partait en effet pour prendre le train qui conduit à la gloire ou pour chercher quelque chose dont il avait rêvé pendant la nuit. Qu'était-ce donc? Il ne le savait pas toujours, mais m'est avis que ce matin-là, il le savait. Monsieur Drommel le hâta au passage, lui fit force caresse et gros compliments, l'emmena dans le jardin et lui demanda la permission de le présenter à Madame Drommel, qui adorait la peinture. Le petit Lestocq fit froide mine à cette ouverture, tâcha de s'évader, inventant des défaites, prétextant des affaires urgentes. Monsieur Drommel lui répensa tout. Il ne lâcha pas son prisonnier et le conduisit par le bouton de son habit vers le kiosque où, l'ayant poussé, « Ma chère Ada, dit-il avec son gros rire, je te présente un jeune artiste de grand avenir qui t'expliquera les principes de Mademoiselle Dorothée et de l'école du plein air. » Quelque peine que se donna Monsieur Drommel, la glace fut difficile à rompre. Lestocq était raide comme un piquet, hautain, gourmé, impossible de le dérider. Madame Drommel était gracieuse, pouvait-elle ne pas l'être? Mais elle avait malgré elle l'air d'une femme qu'on dérange et qui préfère la solitude aux importuns. Monsieur Drommel les laissa se débrouiller. Leur tournant le dos, il se mit à arpenter une des allées du jardin. Il tenait d'une main son crayon, de l'autre son carnet. Il s'était avisé, en prenant son café, d'une sanglante épigramme à décocher à l'Asinus. Il avait hâte de la noter. C'était une vraie trouvaille, et si tenace que fût sa mémoire, écrire lui paraissait plus sûr. Il n'avait une confiance absolue qu'en deux choses, sa femme et son calepin. Tout en écrivant, il prêtait l'oreille de temps à autre. Il lui parut qu'on s'était mis à causer et il jugea même que l'entretien était assez animé. Il entendit tout à coup le petit Lestoc s'écrier « Mais là, franchement, convenez que c'est un sot !» Monsieur de Rommel écarta les branches d'un chèvrefeuille qui obstruait l'entrée du kiosque. Il avança sa tête carrée et dit « Qui est le sot ?» Lestoc s'élança vers lui et lui mettant la main sur la bouche « Chut, ne vous trahissez pas, il est ici, tout près !» Monsieur de Rommel promena son regard autour de lui. Il aperçut Monsieur Taconnet qui faisait un tour dans le potager. « Vous avez mille fois raison, dit-il. Et qui pisait, c'est un sot hardieux et malfaisant. Je comprends pas que Madame de Rommel fasse fi de difficulté d'en convenir. » « Il a des choses, répondit Lestoc, qu'on pense sans oser les dire. » Monsieur de Rommel retourna dans son allée où il continua de prendre des notes, jusqu'à ce qu'on vînt l'avertir que la voiture avait été avancée, que le prince de Malacerra l'attendait. Il se dirigea de nouveau vers le kiosque pour prier sa femme de retoucher son nœud de cravate. Il tenait à faire honneur à son noble ami. Cette fois, le petit Lestoc disait avec un accent très doux mais très délibéré « Je vends toujours à prix fixe. Ou par exception, je consens vous faire un rabais. J'en demandais quatre, il m'en faut trois. Mais c'est mon dernier mot et j'entends être payé comptant. » À ces mots, il sortit du kiosque en courant, faillit heurter M. de Rommel. Lui prenant la main qu'il secoua vivement. « Mon cher monsieur, il m'en faut trois, s'écria-t-il. Faites entendre raison à Madame de Rommel. » Et il s'éloigna en levant les bras au ciel, comme pour l'attester que c'était bien son dernier mot. « Il en faut trois ?» demanda Monsieur de Rommel à sa femme. « Qu'est-ce qu'à dire ?» Elle courut à lui, oubliant qu'elle avait mal aux pieds, et se mit en devoir de lui arranger sa cravate. « Bon, tu t'es bien mépris à son sujet, lui dit-elle. Il est original, je le veux, mais innocent, il ne l'est guère. » Oh, ça, mais est-ce que par hasard, cet élève de Mademoiselle Dorothée ? Mais quel arabe ! 300 francs pour une misérable aquarelle ? Oh, il a une façon de vous demander les choses de but en blanc, qui n'est vraiment qu'à lui, et il exige qu'on le paye comptant. « Ces prétentions sont ridicules, répondit M. de Rommel. Je le croyais mieux élevé, plus galant homme. Bah, il ne verra pas la couleur de notre argent. Tâche de le guirlander, ma chère Anna. T'en viendras bien à bout. »« Je ferai de mon mieux, dit-elle. » Puis, s'éloignant de deux pas, elle le regarda fixement et lui tira une de ses profondes révérences qu'elle faisait jadis au public de Berlin les soirs où il l'applaudissait à faire couler la salle. « Il paraît que ton pied ne fait pas plus mal, lui dit-il. » « Non, il s'est guéri comme par enchantement. » Elle le regarda de nouveau. Elle le trouvait phénoménal et elle se mit à rire comme une folle. « Eh bien, qu'est-ce qui te prend ?» Et elle répondit avec une volubilité qui ne lui était pas ordinaire. « Mais le ciel est bleu, il y a là-bas des roses, l'herbe de la pelouse est toute fraîche. « Ton nœud de cravate est irréprochable et il me semble que j'ai 16 ans. »« Ajoutons-en 12, dit-il. Madame de Rommel est née le 26 juillet 1851. »« Pour la première fois, dit-elle, mais Madame de Rommel renaît de temps à autre. » Il y avait en ce moment un baptême ou un mariage à Chailly et le vent apportait jusqu'à Barbizon le bruit des cloches qui sonnaient à toute volée. « Foi de danseuse, reprit-elle, les cloches nous annoncent une joyeuse nouvelle. L'air a aujourd'hui une couleur toute particulière, celle qu'il a les jours de fête. »« Je m'informerai tantôt, lui répliqua-t-il, s'il y a dans le voisinage quelque hospice d'aliénés, je viendrai t'y voir en passant mon retour d'Italie. » Une guêpe indiscrète voltigeait autour de son front. Madame de Rommel la chassa d'un coup d'éventail. Puis elle contempla ce vaste front qui portait un monde. Il lui parut qu'il y avait quelque chose d'écrit. En sa qualité de femme de savant, elle respectait les Écritures. Elle voulut pourtant en avoir le cœur net. « Sais-tu quoi ? » disait-elle. « Je suis horriblement jalouse de ce prince à qui tu me sacrifies durant toute une journée. Si je te disais que je meurs d'envie de voir Fontainebleau, et si je te suppliais de m'emmener, gageons. Ne gâche pas, ma chatte, tu perdrais. Les femmes sont quelquefois de grands troubles faites. Mais décidément, tu ne veux pas m'emmener. Non. Et voilà celui qui veut, dit-il en se frappant la poitrine à tour de bras. Et voici celle qui obéit. Il lui prit la main, et comme dans la forêt, il effleura négligemment de ses grosses lèvres des ongles roses qui n'avaient jamais égratigné personne. Il était pressé de s'en aller, on ne fait pas attendre les princes. Elle l'accompagna jusqu'au milieu du jardin, en lui recommandant d'éviter les courants d'air, de se défier du serin, de ne pas oublier son plaid à Fontainebleau, de s'en envelopper avec soin au retour, enfin d'avoir les plus grands égards pour sa précieuse personne. Puis elle le regarda s'éloigner. « Il paraît bien que l'écriture est en règle, » pensa-t-elle. Les cloches sonnaient toujours. Elle s'adossa contre un pommier, ferma à moitié les yeux. Il lui sembla qu'un bras téméraire s'enlaçait autour de sa taille, que des lèvres audacieuses se pressaient sur les siennes, et qu'une voix jeune et frémissante lui disait « Je vous adore, il m'en faut trois. » Était-ce un rêve ou un souvenir ? Elle fut réveillée par un sursaut par son mari, qui rebroussait chemin pour lui dire « Bon, il lui a une idée, promets-lui un abonnement à la lumière. »« Je crains bien que cela ne suffise point, » répliqua-t-elle. Mais elle l'exhorta de nouveau à éviter soigneusement les mauvais pas et les courants d'air. « Au diable, les femmes qui ont l'amour de litanie !» répondit-il, indigné qu'elle ne goûta pas son idée. Dès qu'il fut monté en voiture, « Me voilà en état de grâce, » dit-il au prince de Malacera, « je suis muni de tous les sacrements de l'Église. » Et il se récria, en se moquant un peu, sur la tendre et trop craintive sollicitude que lui témoignait sa femme. Il ajouta qu'il n'avait jamais été malade de sa vie et que jamais il n'avait rien perdu en voyage, pas même son parapluie. « Bon, mon cher ami, lui répondit le prince, que je vous envie votre florissante santé, votre bonheur, et oserais-je vous le dire, votre délicieuse épouse. Hélas, la princesse de Malacère, oh, je suis bien malheureux, mon ami, car la princesse, elle s'est sauvée avec un méprisable aventurier. Oh, si je les tenais! Le désespoir, il est cannibale, et les femmes sont inconcevables. M'avoir préféré l'autre. Ah, tout le monde s'accorde à dire, je suis assez bel homme, si l'autre, il était si affreux, un petit homme cabu. Vous voyez, quand je vous dis tous mes secrets, j'ai toujours la coutume de montrer mon âme à mes amis. Oui, mon ami, c'est pour cela que je voyage. Car depuis cette horrible aventure, Malacera, il me déplaît quelquefois. Et vous verrez pourtant comme il est beau, Malacera. À ces mots, le prince porta son mouchoir à ses yeux. Et M. Dormel lui-même crut devoir par bienséance verser quelques larmes sur la déplorable escapade de la princesse. « Dites-moi la vérange vérité, mon ami, » reprit le prince. « N'avez-vous jamais été jaloux ? La princesse de Malacera, elle m'a fait mourir de jalousie. » M. de Remel éclata de rire, tant la question lui sembla baroque. « Prince, » répondit-il, « Madame de Remel est d'un pays où les femmes savent aimer parce qu'elles ont de l'âme du Djemuf. » Le Djemuf, qu'est-ce que donc cela ? Oh, impossible de vous le faire comprendre, cela ne peut se traduire, ni en italien, ni en français. Le Djemuf, alors qu'il vous suffit de savoir qu'une femme qui a du Djemuf n'aime qu'une fois et ne se sauvera jamais avec l'autre. même quand il ne serait pas cabu. Ah, une femme qui a du gabuf, répliqua solennellement M. Dormel, méprise tout, de tout son cœur, et méprise tout ce qu'on appelle dans ce pays la bagatelle, et pour les femmes de ce pays-ci, la bagatelle est tout. Là-dessus, il lui reprocha de prendre son aventure trop au tragique. Il lui représenta que les vrais philosophes ne s'épeuvent de rien, ne s'étonnent de rien et ne sont jamais jaloux. Que les femmes, après tout, ne sont que de jolis jouets, quand elles ne sont pas de grands empêchements, maximum impedimentum. Qu'au surplus, l'affinité élective est une loi fatale, une loi sacrée, dont il faut s'accommoder avec gaieté et bonne humeur. Il partit de là pour l'engager à étudier sérieusement la sociologie, science d'un prix inestimable qui nous apprend à mépriser tous les petits accidents dont s'affecte le profane vulgaire. Et ce fut en devisant ainsi qu'ils arrivèrent à Fontainebleau, où ils firent un excellent déjeuner arrosé des meilleurs vins. Après cela, ils visitèrent le château. À vrai dire, M. Dormel trouva inférieur à sa réputation. Décida qu'on l'avait surfait comme la forêt. La cour ovale, la porte dorée, la salle du conseil le laissèrent froid. Il trouva même beaucoup à reprendre dans la merveilleuse galerie de Henri II. Pour un peu, il aurait prétendu qu'il y avait mieux à Görlitz. Cependant, en traversant la cour de la fontaine, il prit quelque plaisir à contempler les ébats des fameuses carpes. Il daigna acheter au rabais une brioche rance qu'il leur jeta avec un sourire de majesté débonnaire. Comprirent-elles, en la dévorant, à quelle glorieuse main elles étaient redevables de leur bonheur? Au retour, la conversation tomba sur la gymnastique allemande. M. Dormel entreprit d'expliquer au prince de Malasserra que grâce à un système d'éducation et d'entraînement que les autres peuples sont réduits à envier sans le pouvoir imiter, l'Allemagne est non seulement le seul pays où les femmes aient du gemut, mais le seul où les hommes aient des muscles. Et pour l'en mieux convaincre, il retroussa ses manches et montra ses robustes poignets au prince, qui, hélas, n'avait que son âme à montrer, tant il était maigre. Il venait en ce moment de laisser leur voiture sur le grand chemin. Il suivait un sentier qui conduit à un chaos de rochers dont le propriétaire de Malasserra désirait faire les honneurs à son cher ami. Arrivé dans ce lieu sauvage et solitaire, M. Dormel voulut que le prince put juger par ses yeux des prodiges qu'accomplit la gymnastique allemande. Alors il se mit à soulever d'énormes pierres, à porter à bras tendus des fragments de roc. Le prince, émerveillé, l'engagea à se débarrasser de son pardessus et de tout son attirail de touristes qui le gênait. Même M. Dormel affirma que rien n'était capable de le gêner. Et comme il avait la tête un peu dure, il ne se laissa pas persuader. Le prince lui demanda s'il était aussi agile que fort, et le mit au défi de grimper jusqu'à la cime d'un rocher fort abrupt. M. Dormel accepta cette nouvelle épreuve, d'où il sortit triomphant, quoique hors d'haleine et trempé de sueur. Il fit après cela quelques sauts périlleux, jusqu'à ce que le prince, devenu pensif, lui dit « Je frémis, mon cher ami, vous me faites frémir. Laissez donc, en voilà assez. Si par le malheur dont je serais inconsolable, il vous est arrivé quelque accident, comment oserais-je reparaître devant la femme qu'elle vous adore ?» Ils regagnèrent leur voiture. De ce moment, le prince fut moins causant. Il devint même taciturne. Il semblait distrait, préoccupé, mélancolique. M. Dormel s'imagina qu'il pensait à la princesse de Malasserra. Je croirais plutôt que les merveilles que produit la gymnastique allemande et les prouesses de son cher ami l'avaient rendu rêveur. qui lui enviait ses incomparables jambes, la puissance de ses bras musculeux. Les plus belles âmes sont sujettes à l'envie. Pour M. Drommel, il était enchanté de sa journée et d'avoir passé quelques heures de plus dans l'intimité d'un homme d'élite qu'il honorait de son amitié et dont la conversation était aussi instructive que ses manières étaient séduisantes. Ce qui surtout le remplissait d'aise, c'est que sa petite excursion ne lui avait rien coûté, attendu que le prince de Malacera avait tout payé, la voiture, le déjeuner, les pourboires, tout, sauf la brioche rance dont les carpes s'étaient régalées. Une autre satisfaction l'attendait à son arrivée. Madame Drommel avait eu raison du petit Lestoc, non sans peine. Elle se trouvait en possession d'une aquarelle qui avait été peinte dans l'après-midi avec une furie toute française et offerte à titre de souvenir, de dons purement gratuits où peu s'en fallait. Cette charmante aquarelle représentait un bout de grand chemin. D'un côté se dressait un énorme chêne qui n'avait pas une feuille. Il était mort ou quasi mort. À main gauche, un sentier courait dans un bois de pins. À l'un des coudes du sentier, on voyait de dos un joli couple d'amoureux qui, apparemment, s'était pris de querelle. Un jeune homme, agenouillé dans la poussière, élevait au ciel des bras suppliants. Il implorait son pardon ou mendiait une grâce. Vêtue d'une robe jaune paille, la jeune femme, penchant vers lui sa tête blonde, le menaçait d'une baguette de coudrier qu'elle agitait dans l'air. Elle avait laissé tomber son parasol, qui avait roulé à quelques pas plus loin et sur lequel se jouait un furtif rayon de soleil. M. Drommel se plaignit que le sujet fût un peu léger. Il se plaignit aussi que le peintre eût esquivé la principale difficulté de son art en montrant de dos ses personnages. Il était curieux, lui, il aimait l'exactitude en toutes choses. Il aurait voulu voir ces deux visages. Cependant, la double tâche que faisaient la petite femme et le parasol de soie caroubier le charma. Et par une de ces intuitions soudaines qui sont propres au génie, il conçut incontinent le plan d'un article à écrire sur l'école du plein air. Il fit remarquer à sa femme que l'aquarelle n'était pas signée. Elle lui montra, sur un rocher de grès qui assistait muet à la querelle des deux amants, ces mots écrits en caractères très simples, très fins, « Souvenir du 1er octobre 1879 ». Elle lui montra cet autre mot, « Sempre », qui veut dire en italien « toujours », et à ce propos, elle lui apprit que « Sempre » était le nom de guerre d'Henri Lestoc. « Jamais, toujours !» dit M. Drommel. « Ah, voilà ce qu'il semble des vocables que ce petit homme affectionne. Il faut croire que Mademoiselle Dorothée les employait volontiers. Mais, je te prie, est-il devenu raisonnable? Combien demande-t-il pour ces deux tâches ?»« Ton idée était bonne, lui dit-elle. » Il s'est contenté d'un abonnement perpétuel à la lumière, ce qui lui fait d'autant plus d'honneur qu'il ne sait pas l'allemand. « Ben, il en sera quitte pour l'apprendre, » répondit-il. « Alors, ben voilà qui est bien, mais par exemple, oh, c'est lui qui paiera le port. » Et il ajouta en embrassant sa femme et lui tirant doucement l'oreille. « La journée est apparue longue. Ben, allez, console-toi, ma chatte. » Il n'y a rien à voir dans leur Fontainebleau.